VOA Afrique.
Jacques Aristide dans la capitale américaine, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Washington Forum. Retour cette semaine sur la tragédie de Charleston aux États-Unis. Dans la demi-heure qui suit, nous allons vous proposer une série de reportages sur les principaux sujets de débat qu'a entraîné le drame. Le massacre de 9 Africains-Américains par le jeune blanc Dylan Roof a ranimé le vieux démon du racisme et la sempiternelle question du port d'armes. Mais l'acte relève-t-il également du terrorisme ? Décryptage.
Washington Forum.
Bienvenue et mille merci de votre fidélité à Washington Forum. L'Amérique se remet lentement de la tragédie de Charleston, mais une importante retombée déjà, la Caroline du Sud, a retiré de son Parlement le controversé drapeau confédéré, considéré par beaucoup comme l'emblème du racisme et d'esclavagisme, décrié depuis la tuerie. Une cérémonie a eu lieu le vendredi 10 juillet. Des milliers de personnes ont applaudi alors que le drapeau était décroché. Pour le président américain, il s'agit d'une étape décisive vers un avenir meilleur. Des observateurs se demandent toutefois si l'arrivée de Barack Obama à la Maison Blanche a vraiment contribué à lutter contre le racisme dans le pays. Nicolas Pinou.
Durant ces deux présidences,
ce matin, nous nous sommes réveillés avec une tragédie.
Barack Obama,
toute fusillade est troublante.
A dû faire face à au moins 12 fusillades de masse.
Nos cœurs sont brisés aujourd'hui.
Récemment, il a été question de racisme et de fusillades.
Aucun d'entre nous ne peut et ne devrait s'attendre à une transformation des relations raciales en une nuit.
Mais c'est ce que certains attendaient du premier président africain-américain du pays. Jana Hawkins votera pour la première fois en 2016 à la prochaine présidentielle.
Les gens pensaient qu'avec Obama à la Maison Blanche, c'était pour les Noirs. Et les Noirs seulement. Mais en fait, qu'a-t-il fait pour les Noirs ?
Hawkins vit à moins de 3 km du lieu des émeutes de Baltimore qui avait éclaté après la mort d'un homme noir lors de sa garde à vue par la police. Un mois et demi plus tard, en Caroline du Sud, un homme blanc abattait 9 Noirs dans une église de Charleston. Une étude de 2014 montre que même si les divisions régressent aux États-Unis, deux fois plus de Noirs américains sont tués par arme à feu que les Blancs. La sociologue Chris Marsh estime qu'il est de nos jours difficile d'identifier le racisme.
Nous ne sommes plus à l'époque d'un racisme ouvert, mais c'est plutôt un racisme pernicieux, ce qui est plus dangereux, parce que c'est plus difficile à prouver et plus facile de le nier.
Comme Dylan Roof, qui a posté ses idées racistes dans un manifeste sur Internet. Mais certains estiment que l'objectif de Roof de déclencher une guerre raciale a échoué, puisque des gens de toutes les couleurs se sont levés contre le massacre de Charleston.
Je ne pense pas que le président Obama puisse à lui seul résoudre le problème racial ou celui des armes.
Cornell Brook est le président de la NAACP, la plus grande organisation de défense des droits civiques en Amérique. Il pense que la solution viendra des gens ordinaires.
Ce n'est pas assez pour nous de parler de façon générale. Il faut aussi se battre et se demander comment faire face aux préjugés et à l'intolérance dans le système scolaire. De quelle façon le faire? Comment résoudre les défis de l'emploi?
Et voilà autant d'aspects à aborder. Pour m'accompagner tout au long de cette émission, j'accueille la professeure Marilyn Sefocle, qui dirige le département des langues à Howard University, ici même à Washington. Je suis content de vous revoir, professeure. Merci d'être avec nous.
Merci de m'avoir invité. Alors, juste une petite correction. Oui. Je ne dirige plus le département de langues. Alors, merci de m'avoir invité.
Le
sujet que vous abordez, c'est un sujet extrêmement important pour les États-Unis.
Absolument. Et d'ailleurs, je vais revenir sur une déclaration de Barack Obama qui a dit « Nous ne sommes pas guéris du racisme ». Ce sont les mots donc du président Obama, quelques jours après le drame de Charleston. Alors, professeur, l'ombre de la ségrégation pèse-t-elle toujours sur la société américaine? Y a-t-il des problèmes encore à régler?
Évidemment qu'il y a des problèmes encore à régler. On ne peut pas rapidement, comme ça, brusquement, avec l'élection du président Barack Obama, complètement changer les mentalités. Ça, c'est impossible. Alors, dans les textes, dans la loi, la ségrégation est terminée. Toutefois, dans les esprits, dans certains esprits, il demeure. Mais il faut bien se mettre en tête qu'il ne s'agit pas de la majorité de la population blanche américaine qui penserait comme cette abominable personne qui a tué 9 personnes, 9 Noirs, 9 Africains-Américains à Charleston. Pas du tout. Les mentalités ont énormément évolué entre les années 60 et maintenant. Il y a une évolution vraiment dramatique, drastique, pardon.
Oui, mais qu'est-ce que l'élection du premier président noir de l'histoire des États-Unis a apporté sur le plan racial dans ce pays ?
Alors, bien sûr, le plan racial, cela a démontré que les États-Unis ont fait un grand pas en avant sur le point de d'élire un Africain-Américain. Toutefois, il faut se reporter à l'histoire. L'histoire américaine, c'est une histoire qui a été, donc, qui est née, si vous voulez, dans la violence contre les Amérindiens, contre et aussi contre les Africains-Américains. Et cette histoire pèse toujours sur le présent. Dans tous les pays, l'histoire pèse sur le présent. Donc, les États-Unis n'échappent pas à la règle. Et donc, aux États-Unis, dès qu'il y a progrès, il y a après ce qu'on appelle en anglais « backlash », il y a une réaction.
Mais aurait-il pu faire mieux ?
Lui tout seul, en tant qu'être humain, il ne peut pas, en tant que président, changer les cœurs de tout un chacun. Ça, c'est important à retenir. L'histoire américaine est telle qu'après l'abolition de l'esclavage, il y a eu, après l'abolition de l'esclavage, une réaction. Une réaction même très violente. C'est après l'abolition de l'esclavage qu'a eu d'ailleurs la création d'organismes absolument horribles comme le Ku Klux Klan. Donc il y a eu la ségrégation, il y a eu la déségrégation, et après la déségrégation, durant les droits civiques, il y a eu aussi une réaction, comme vous avez vu. Il y a eu la mort, l'assassinat de Martin Luther King et l'assassinat de Kennedy. Donc maintenant, avec l'élection du président Obama, vous avez un pas en avant, et puis vous avez Charleston, par exemple, qui est une réaction contre le progrès.
Alors, professeur, la tuerie de Charleston a également provoqué un autre débat avec une interrogation qui continue à faire polémique. Faut-il parler de terrorisme ? Oui, disent des activistes des droits civiques, avis que ne partage pas tout le monde, évidemment. Le point sur ces opinions diamétralement opposées avec Camille Gros-Didier.
Alors que Charleston enterrait ses morts après le massacre, un mot était sur toutes les lèvres, la terreur.
Pas par hasard, mais en tant que moyen de contrôle, en tant que moyen de terroriser et d'opprimer.
La fusillade intervenait au terme d'une longue suite de violences raciales dans le sud des États-Unis, aux mains de groupes extrémistes comme le Ku Klux Klan, qui maintiennent des cellules actives dans tout le pays et qui sont liées à d'autres attaques. Pour le militant en faveur des droits civiques, Marc Morion, parler de terreur dans le cas de la tuerie de Charleston est tout à fait approprié.
Quand je réfléchis au terrorisme, à la violence servant à promouvoir une idéologie politique, la violence pour promouvoir des convictions profondes que les victimes sont, d'une façon ou d'une autre inférieures, pas du même niveau, une menace.
Sur le site du massacre à Charleston, même des gens qui ne se considèrent pas comme des activistes évoquent le mot « terreur ».
C'est un acte grave de terrorisme contre la nation, contre quelqu'un au sein de la nation.
20 ans se sont écoulés depuis l'attentat à la bombe d'Oklahoma City contre un bâtiment du gouvernement fédéral américain. Le cerveau de cette attaque, Timothy McVeigh, un extrémiste américain. Mais depuis 2001, les militants d'extrême droite, dont les suprématistes blancs, ont tué 48 personnes, presque le double des victimes de djihadistes, selon des chiffres réunis par l'Institut New America Foundation.
Le terrorisme est toujours un mot à forte connotation politique. Il est très important de maintenir une cohérence, quelles que soient les idéologies, parce que sinon, cela paraît discriminatoire. On dirait que la violence commise par des minorités est prise plus au sérieux que la violence contre les minorités.
Les responsables fédéraux enquêtent toujours pour déterminer si la fusillade de Charleston était au plan juridique un acte de terreur, ce qui n'implique pas que Dylan risquerait une peine accrue au cas où il soit reconnu coupable. De toute façon, il encourt déjà la peine de mort. À noter que le président de la NAACP, l'Association nationale pour l'avancement des gens de couleur, la plus ancienne organisation en faveur des droits civiques, a fait valoir que l'acte de terrorisme perpétré à Charleston n'a inspiré de terreur ni à la communauté noire ni au pays.
Si c'était son but, de quelque façon, de déclencher une guerre raciale, il a réussi. Il a relancé la guerre contre le racisme. C'est ce qu'il a fait.
That's what he did.
Et j'ajoute que le quotidien américain New York Times s'est également demandé pourquoi la tuerie de Charleston n'est pas appelée terrorisme et d'ajouter que les attaques comme celle du marathon de Boston en 2013 sont largement décrites comme des actes de terrorisme perpétrés par des islamistes extrémistes. Alors, professeur Seyfock, l'acte du jeune suprémaciste blanc, Dylan Roof, comme il est présenté, faut-il le qualifier comme un acte terroriste ?
Absolument, absolument. Il s'agit de terrorisme. Dylan Roof, il se place tout à fait dans la lignée du Ku Klux Klan. Le Ku Klux Klan tuait les Africains-Américains, les personnes des minorités, dans le but de créer la terreur, dans le but d'intimider. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il a essayé d'intimider la population. Et la population, il a, dans ce sens-là, il a vraiment échoué parce qu'il a permis justement à toute la population, blanche comme noire, de réfléchir aux questions de racisme et d'essayer justement d'endiguer le phénomène et d'ailleurs baisser le drapeau des confédérés. Ça a été un acte justement provoqué d'ailleurs par qui a été le résultat de la tuerie et qui est un acte qu'il fallait, mais depuis déjà des décennies, faire. Il fallait baisser ce drapeau.
Oui, le drapeau. Mais pour revenir à cette question de terrorisme, les médias évidemment s'interrogent, mais pourquoi les autorités ne l'ont pas fait? Pourquoi on ne qualifie pas cet acte de terrorisme?
Vous voulez dire l'acte de hisser le drapeau lui-même?
Non.
C'est une forme de terrorisme également, parce que le drapeau des confédérés a toujours montré qu'il y avait une partie de la population blanche dans le sud des États-Unis qui tenait à son histoire esclavagiste et qui pensait qu'elle avait raison quelque part dans l'histoire.
Oui, ça c'est pour le drapeau,
mais pour ce qui est de ce jeune homme, si on peut le qualifier de tel, c'est un acte terroriste parce qu'il s'agissait de créer la peur dans la population et aussi, comme il l'a dit lui-même, essayer de déclencher une guerre des races.
Alors d'après, en fait, c'est ça le même journal, New York Times, en fait, qui en parlait. Mais alors là, la tuerie de Charleston a évidemment remis sur le tapis l'éternel débat sur les armes à feu aux États-Unis. Au cours de son hommage aux victimes, Barack Obama a dénoncé le chaos causé par les armes. Il a appelé son pays à engager une véritable réflexion sur ce thème. Mais beaucoup doutent d'un quelconque progrès. Lionel Gaïma.
Un samedi matin, dans un centre de tir de Somerville, dans la banlieue de Charleston. Nolan Welch et son frère William sont ici avec leur père Kevin. Ils apprennent la sécurité et l'adresse au tir sur une cible reconnaissable. Ici, au centre Gun Shop ATP and Range, vous pouvez vous exercer au tir ou acheter de nombreux types d'armes, des pistolets de poche Derringer, aux fusils de chasse en passant par des fusils pour sniper. Il y a même des modèles pour dames. Et tandis qu'un ménage américain sur trois possède des fusils bien plus que dans tout autre pays, beaucoup de gens croient que le massacre à l'église est arrivé parce qu'il n'y avait pas assez d'armes en circulation.
Je pense que les gens ont juste besoin d'être en mesure de se protéger de ce genre de choses qui pourraient se produire tous les jours. Je pense qu'une société armée est meilleure.
Les défenseurs du droit de posséder des armes pensent que lorsqu'elles sont utilisées correctement, elles sécurisent la société. Mais après les fusillades comme celle de Charleston, ils sont sur la défensive.
Pendant trop longtemps, nous avons été aveugles au chaos unique que la violence armée peut infliger à cette nation.
Le président Barack Obama lui-même a noté que les fusillades de masse sont de plus en plus fréquentes en Amérique et a appelé à des lois beaucoup plus sévères en matière d'armes à feu. Après la fusillade dans cette église, le pasteur et militant de droits humains, Curtis Getwood, estime que l'amendement constitutionnel relatif au droit de porter les armes est utilisé pour empêcher l'adoption de lois sur les armes qui pourraient aider les communautés noires.
Nous ne pouvons pas continuer comme si nous empiétons sur le deuxième amendement ou les droits d'autrui.
Les sondages montrent que les Américains noirs sont plus susceptibles d'être tués par des armes à feu que les Blancs, mais moins susceptibles d'en posséder. Tyler Brown, âgé de 15 ans, est venu au centre de tir avec son père David. Ce dernier s'inscrit en faux contre cette tendance.
Vous devez toujours être armé parce que vous ne savez jamais quand un malfaiteur apparaîtra. Un s'est pointé dans une église, il faut toujours être armé. Je ne quitte jamais la maison sans mon arme.
Les meurtres de Charleston ont ouvert des yeux de beaucoup d'Américains au sujet de la condition du noir dans ce pays. Mais il n'est pas clair si ce constat aura des conséquences nationales sur la culture des armes à feu.
Et oui, à chaque fusillade américaine, le débat sur les armes est donc relancé. Nous nous souvenons de la réforme des lois sur les armes promue par le président Obama après l'électrochoc du massacre de Newtown. Réforme rejetée toutefois par le Sénat américain après avoir été activement combattue par le lobby des armes, la toute puissante NRA, National Rifle Association. Et pourtant, l'amendement proposé ne concernait que des vérifications d'antécédents judiciaires et psychiatriques avant les achats d'armes sur Internet et dans les foires. Professeur Sefocle, la guerre contre les armes à feu dans ce pays est-elle une guerre perdue d'avance ?
Perdue d'avance, non. Il s'agit avant tout de sensibiliser l'opinion publique sur le danger que peuvent présenter les armes. Pour un Américain qui est pour le port d'armes, vous en avez tout autant qui sont contre le port d'armes ou qui sont plus pour des règlements beaucoup plus stricts quant au port d'armes. Mm-hmm. Donc je pense qu'il ne s'agit pas du tout d'une guerre perdue d'avance. Je pense que le président Barack Obama a remis la question à nouveau sur le tapis et je pense que l'idée d'avoir une Amérique qui soit à la fois « secure », comme on dirait, qui soit protégée, sans qu'il y ait de port d'armes à outrance, je pense que c'est une idée qui fait son chemin.
Et vous savez que le FBI a été vivement critiqué dans le cas de Dylan Roof, parce que le FBI a commis, d'après beaucoup, une bourde monumentale. À cause d'une erreur bureaucratique de ses services, Dylan Roof a pu acheter une arme que normalement l'armurier aurait dû lui refuser. Alors donc, de telles erreurs, des erreurs comme ça mettent-elles à mal la campagne anti-armes dans ce pays ?
Non, je pense qu'au contraire, que ce genre d'incident justement montre qu'il faut encore davantage être strict quant au permis de port d'armes, parce qu'en vérifiant son identité, en vérifiant son passé, de façon beaucoup plus précise, je pense qu'il n'y aurait peut-être pas eu
Vous restez avec nous, il y aura d'autres aspects à aborder tout à l'heure. L'heure de marquer une courte pause. À venir, d'autres reportages, de même que les commentaires à Facebook. Merci de rester avec nous. Jacques Aristide avec vous, merci de votre fidélité à Washington Forum. Nous braquons les projecteurs sur l'après-tuerie de Charleston aux États-Unis. Sans plus tarder, quatre commentaires Facebook. Le grand Wesley de Dalwa, Côte d'Ivoire, Dylan Roof, avait des amis noirs, mais il a agi pour se faire remarquer. C'est tout pour ce qui est des armes, c'est un faux débat. Si posséder une arme à feu aux États-Unis était si mortel, on ne compterait pas le nombre de morts sur fond de racisme et et autres. Mamadi Wiss Kaba de Guinée-Conakry, c'est un terroriste bien sûr. Je ne sais pas pourquoi vous n'utilisez ce nom que pour des islamistes qui tuent. À mon avis, tous ceux qui commettent des actes d'une telle barbarie sont les mêmes. Modeste Ramadji de Moundou, Tchad, un cocktail de terrorisme et de racisme. Les adeptes du KKK se réfèrent toujours à la religion dans leurs actes ignobles. Et Mihigo Fidel de Goma, RD Congo, c'est un acte qu'il a préparé. Une arme lui a été donnée par un de ses parents comme cadeau d'anniversaire. Le parent est complice, à mon avis. La tragédie du 17 juin a également mis en relief l'avance prise par les groupes extrémistes dans l'utilisation d'Internet pour séduire et convaincre les jeunes. Aux États-Unis, l'administration Obama a appelé les communautés à prendre l'initiative pour lutter contre la propagande extrémiste en ligne afin de se protéger elles-mêmes. Portrait maintenant de deux internautes aux idées diamétralement opposées, Jean-Roger Billon.
Ceci, c'est le visage de l'extrémisme américain au XXe siècle. En voici sa représentation au XXIe siècle. L'extrémisme se présente maintenant à visage découvert. Et c'est sur les médias sociaux, sur la toile, un endroit où les internautes peuvent pester contre les Noirs, les Asiatiques, les Hispaniques, le gouvernement, les Juifs, pour ne citer que ceux-là. Un écran d'ordinateur offre l'anonymat, et même pour interviewer quelqu'un, nous avons dû aller dans l'obscurité pour cacher son identité.
C'est à travers l'Internet.
Roger est âgé de 26 ans et affilié à un site Internet identifié comme appartenant à un groupe haineux. Roger est loin d'approuver une société faite de diversité.
Je pense que les cultures ne s'expriment pleinement que lorsqu'il y a des frontières entre elles et, si vous les mélangez, elles finissent dans le plus petit dénominateur commun entre elles.
Il invoque ce qu'il appelle la théorie de contact pour garder les Blancs et les Noirs séparés.
Le principe est que si vous mettez des gens ensemble, ça réduit les problèmes. Et c'est en fait souvent le cas pour tous les groupes, sauf les Noirs. Quand les gens d'autres races ont des interactions étroites avec les Noirs, ils en sortent souvent avec plus de dommages qu'avant. Ceci n'arrive pas quand les Blancs s'associent avec les Asiatiques.
Je ne peux vraiment pas en parler pour être honnête.
Elissa Morris a 22 ans et elle a grandi dans un quartier multiculturel en zone urbaine. L'informatique n'a pas de secret pour elle, mais elle ne passe pas pour autant sa vie en ligne.
Si seulement ils pouvaient un brin abandonner leur écran et commencer à parler aux autres, aller dehors, s'ouvrir au monde extérieur, peut-être ils auraient des vues différentes.
Les analystes font valoir que l'Internet a permis aux gens partageant une communauté de vues de se retrouver. J.M. Berger a beaucoup écrit sur les extrémistes et leur utilisation des médias sociaux. Nous l'avons joint sur Skype.
Il n'y a pas plus grand du vent que d'avoir des gens qui vous disent qu'ils sont d'accord avec ce en quoi vous croyez ou qui partagent votre vision du monde.
Dylan Roof, le tueur de Charleston, a validé ses convictions sur le web à travers ses articles et un manifeste sur la race. Au mois de juin, il est entré dans une église noire de Caroline du Sud et a tué 9 personnes. Le dilemme pour les enquêteurs est de savoir quand l'idée postée sur les réseaux sociaux a pris forme pour devenir réalité. Clint Van Zandt est un ancien du FBI.
J'ai vu des membres de groupes prônant la suprématie dire par exemple « Nous ne pouvons pas simplement faire la différence entre une personne qui fait des rodomontades et exprime sa colère sur Internet et une autre qui ramasse une arme à feu le lendemain pour aller tuer quelqu'un. »
Conclusion de M. Van Zandt, s'ils ne peuvent pas le faire, comment peut-on appliquer la loi? C'est une question qui hante les enquêteurs alors qu'ils essaient de deviner ce qui se passe dans les têtes des suspects qui se cachent derrière le web.
Gros plan maintenant sur les nouveaux immigrants africains aux États-Unis. Comment s'intègrent-ils? Quels sont leurs rapports avec la communauté africaine-américaine? Pour des éléments de réponse, j'accueille Roger Muntou. Salut Roger.
Salut Jacques. L'intérêt de Noirs d'Amérique pour leurs frères d'Afrique ne date pas d'aujourd'hui. De William Dubois au révérend Sullivan, et en passant aussi par Andrew Young et Jesse Jackson, hein, qu'on connaît très bien, il y a toujours eu des difficultés entre ces deux communautés. Nous avons eu la chance d'interviewer certains membres de ces deux communautés et écoutons ce qu'ils ont dit. Pas du tout facile.
Par manque d'éducation, le Noir américain, en général, ne sait pas c'est quoi l'Afrique, ne sait pas qu'il y a 54 pays en Afrique avec 54 présidents où on parle de l'Afrique juste comme un pays, pratiquement.
Joe Gill, un Afro-Américain né et grandi à Washington, D.C., nous raconte son expérience.
Un jour, j'étais dans une salle des sports. J'ai entendu de frères africains dire que les Noirs américains ne savent pas différencier les pays africains. Ce sont des choses pareilles qui nous divisent.
Kambale Moussavouli est un programmeur. Cet activiste congolais résident aux États-Unis croit que les problèmes des Afro-Américains doivent aussi concerner les Africains.
Nous ne nous attachons pas souvent aux problèmes des Noirs américains. C'est peut-être parce qu'on ne les voit pas présents dans nos problèmes. Quand on voit la guerre en Afrique, est-ce que les Noirs américains manifestent, disant « Non, les rebelles de l'Est du Congo ne vont pas prendre Goma ».
Patricia Servant est de père américain et de mère congolaise. D'après cette mère de deux petits-enfants, les Afro-Américains ont un problème d'identité.
Je pense que cela a beaucoup à voir avec la façon dont nous nous accrochons à notre culture. Nous pouvons vivre ici, aux USA, depuis plus de 20 ans, mais nous sommes toujours connectés à nos origines. Moi, par exemple, je suis née en RDC, mais j'ai vécu longtemps ici. Je sais que mes racines sont au Congo, mais ce n'est pas le cas pour beaucoup de Noirs américains qui, de plus en plus, cherchent à connaître leurs origines en recourant au test ADN.
Je crois que notre image d'Afro-Américain est ternie par les médias qui, de fois, nous qualifient de moins intelligents, qui croient aussi que nous ne sommes bons que dans le divertissement, la musique, le sport. Et c'est peut-être cela que nos frères africains pensent de nous.
On doit commencer à se dire, si le Noir américain ou la Noire américaine est mon frère ou ma sœur, et que je l'aime, je ferai tout pour le reconnecter ou la reconnecter en Afrique.
Je pense que nous devons commencer par reconnaître que c'est un grand problème et que nous devons trouver une solution.
Nous devons trouver un endroit commun et propice pour un dialogue respectueux, franc et sincère.
Un grand problème, Roger, vous-même, vous êtes de la RD Congo. Très rapidement, parlez-nous de votre parcours en tant qu'immigré dans ce pays.
On n'a pas assez de temps pour que je parte au parcours, mais je dois quand même dire que oui, ça n'a pas du tout été facile, hein, comme beaucoup d'entre nous qui venons dans ce pays. J'ai eu aussi des moments très difficiles. Et pour moi, les challenges, c'était beaucoup plus la langue, Jacques.
La langue, alors, nous l'avons entendu, professeur Sefocle, pour Barack Obama, il y a beaucoup de progrès dans le domaine des relations raciales en Amérique, mais il reste des problèmes à régler. Comment faire pour améliorer la situation très rapidement?
Je dois tirer mon chapeau à ce groupe qui s'appelle Black Lives Matter, à ce mouvement, ce n'est pas un groupe, c'est un mouvement Black Lives Matter, parce qu'il s'agit de faire en sorte et de porter très haut le message que la vie des Noirs compte, qu'il s'agisse des Noirs au Congo, qu'il s'agisse des Noirs aux États-Unis. Et c'est un message qui doit être vraiment sur lequel on doit vraiment insister. Pourquoi ? Parce que l'image du Noir a beaucoup souffert, pas seulement son image, mais le Noir a souffert dans sa chair à cause de l'esclavage, suivi par la ségrégation, la discrimination en Afrique, la colonisation. Et on a l'impression, on se dit aujourd'hui, bon, il faut aller de l'avant, mais il faut aller de l'avant sur une base, sur la base de l'histoire.
Oui, et donc, en fait, quand vous parlez de Black Lives Matter, c'était parce qu'il y avait pas mal de cas de brutalité policière.
Voilà.
C'est un autre problème. En fait, évidemment, on n'a pas beaucoup de temps maintenant. Oui. C'est un sujet qu'on a déjà abordé, mais on va revenir là-dessus.
Tout à fait. Et... pour continuer, je disais que montrer à la planète et insister auprès de tout un chacun dans le monde entier que la vie des Noirs est importante, ça c'est important parce qu'on n'a pas assez d'images positives. Sur les Noirs américains
Marine,
et sur les Africains.
Je vous remercie. Voilà. Vous êtes du département des langues à Harvard University. Merci à mon collègue Roger Muntou. Petit clin d'œil à nos amis de Carrefour TV, notre télépartenaire à Boïcon, au Bénin. Et bien évidemment, merci à vous, chers amis de la VOA. Merci de nous avoir accueillis chez vous. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous dis à la semaine prochaine. Take care.